France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les chansons de Pierre Macorlan, première partie. Disparu il y a 50 ans, en juin 1970, à l'âge de 88 ans, l'écrivain Pierre Macorlan a connu durant l'entre-deux-guerres une importante activité de romancier abordant différents styles. Contes humoristiques, romans d'aventure, récits fantastiques. Après la guerre, il a entamé une nouvelle activité de producteur radio et de parolier. La chanson est alors devenue une sorte de conclusion à sa carrière littéraire. En l'espace de 20 ans, il a livré une soixantaine de textes de chansons d'humeur nostalgique, marqués par l'univers militaire et surtout par celui des villes et des ports qui le fascinaient. Une grande partie des archives de Pierre Macorlan sont conservées au musée départemental de Seine-et-Marne, à Saint-Cyr-sur-Morin, où se trouve également sa maison, que l'on peut visiter le dimanche ou bien sur rendez-vous. Le musée présente actuellement, et jusqu'au 20 décembre, une exposition intitulée « Voyage en couleurs, Pierre Macorlan et les peintres ». Sa conservatrice en chef, Evelyne Baron, ainsi que Bernard Ascal, directeur artistique pour le label EPM, ont bien voulu participer à cette série d'émissions pour nous éclairer sur le parcours et l'œuvre chantée de Pierre Macorlan. Nous allons donc entendre durant plusieurs semaines ces interprètes de premier plan, quasiment toutes féminines, en tête desquelles figure Germaine Montero, ici enregistrée en 1965.
Je peux vous raconter l'histoire, celle de mes quatre saisons, afin d'en faire une chanson très provisoire. Les jeûnes d'un nègre matin me tenaient au cœur et au ventre. Oh, mais j'étais adolescente, je voulais manger, j'avais faim. Et puis j'ai apprécié la vie que l'on appelle encore l'amour, ou bien mieux le bonheur du jour lorsque l'on joue la comédie. C'était mensonge de l'été, les âmes disaient ma chérie, bel été de la perfidie, chérie, je pouvais rigoler.
Evelyne Baron, j'aimerais que vous nous expliquiez le rapport de Pierre Macorlan plus précisément à la chanson.
Macorlan s'est toujours intéressé à la chanson, même très jeune, hein, dès le lycée d'Orléans. D'abord au lycée d'Orléans, il a fréquenté Gaston Couté, qui a été lui aussi auteur de chansons. Et puis, on sait qu'à cette époque-là, il a écrit à Aristide Bruand, qu'il admirait, dont il a reçu une réponse d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il s'est rendu à Montmartre, à Paris, hein. Avec l'idée à l'époque d'être peintre. Il arrive à Paris en 1899, il en repart, il va un peu à Rouen pour faire des boulots alimentaires, puis il revient à Paris au tout début du siècle. Là, il essaye de vivre de la peinture, il a beaucoup de mal. Il y a déjà des premiers liens avec la chanson parce qu'il illustre beaucoup de livrets de chansons, hein. Notamment, il a illustré une chanson qui s'appelait « Le citron piqué », qui a été chantée par Maurice Chevalier. Il illustrait beaucoup pour un éditeur de chansons qui s'appelait Saint-Gilles. Et puis, il écrivait aussi des chansons, mais dont aucune n'est passée à la postérité, parce que c'était vraiment du travail alimentaire.
Il est signé sous son nom ?
Non, parce qu'il a pris le nom de Macorlan uniquement en 1913. Donc, il est signé de son nom, Pierre Dumarchais, qui était son nom de naissance.
Au Critérion Bar, après la débine, je faisais la barmède pour les Norvégiens. Les gars des cargos m'appelaient leur frangine. J'ai gagné 10 bob en un tournement. Après le business, sur le quai des Brumes et la rue Grand Pont, c'était le Chabanais. On m'appelait Nelly et le passé se rallume afin que je puisse distinguer tes traits. Tu venais me chercher dans la lumière blême d'un sale petit jour, sans sèche et sans blé. On rentrait se coucher le ventre en carême dans ma chambre meublée, rue des Cordeliers. Je pouvais dormir en me fichant de l'ardoise, ma bouche entrouverte souriait au plaisir. La vie n'est très belle que pour les bourgeoises, le meilleur du lot, c'est pour le souvenir.
Cette chanson, inspirée par le séjour à Rouen du jeune Pierre Dumarchais, à peine âgé de 20 ans en 1902, mais aussi par la Grande Guerre, était interprétée par Monique Morelli. Elle figure sur le disque 45 tours intitulé « Souvenirs de caserne » qu'elle a consacré en 1958 aux œuvres de Mac Orlan, lequel a d'ailleurs préfacé la pochette. La chanson « Nelly » fait aussi partie de la série d'émissions « La chanson de mes villes » enregistrée en 1951 par l'écrivain en compagnie de Germaine Montero et sur laquelle nous reviendrons en détail la semaine prochaine.
Ainsi, pour Rouen, la ville qu'évoque votre première chanson.
Oui, la rue des Charrettes, il ne reste plus rien. Les bars que j'ai fréquentés sont remplacés par des baraques en bois, d'où l'on peut contempler de mélancoliques travaux de voirie. Le quartier des Matelots n'est plus sur cette rive de la Seine, il est de l'autre côté. Mais, bien que je n'y sois jamais allé depuis, il est probable que l'écho pourrait m'y apporter les mêmes musiques de jadis. Et ceci me paraît relativement consolant. Les musiques populaires anciennes sont bonnes conductrices de la sentimentalité. Et grâce à la gravure sur cire, elles aident à ressusciter le dessin d'un site définitivement disparu.
Alors, finalement, de quand datent ces premiers textes de chansons ? On arrive à situer ou pas ?
Je pense qu'il a rédigé ses chansons plus ou moins tout au cours de sa vie. C'était des poèmes. Et puis, je pense que l'idée de les formaliser est venue à la fin des années 40, en 47, quand son ami Nino Franck, hein, qui était écrivain d'origine italienne et puis qui travaillait beaucoup pour la radio, a relancé un peu sa carrière en l'amenant à faire des émissions de radio très longues, des séries, en fait, véritables séries, sur la chanson populaire, parce que Mac Orlan était très bon connaisseur de ça. Et je pense que cette ambiance de travail autour de l'histoire de la chanson populaire l'a amené à formaliser ses poèmes qui étaient en friche sous la forme de chansons. Et finalement, c'est ça qui a fait que il a fini par les consigner et puis les éditer sous la forme de recueils, c'est-à-dire chansons pour accordéon, le premier, et puis ensuite mémoires en chansons.
Les chansons de Pierre Mac Orlan trouvent leur origine au sein de ses romans de l'entre-deux-guerres, où figurent souvent des amorces de paroles. Ayant forgé au fil des décennies son outil d'auteur de chansons, l'écrivain a donc puisé dans sa propre expérience des années 1900 à 1920 pour construire un univers poétique singulier qui trouve son aboutissement musical à partir de 1949-50, alors qu'il approche des 70 ans. La chanson est en quelque sorte devenue pour lui le moyen idéal d'écrire ses mémoires. Sa première interprète est Laure Diana, actrice et chanteuse qui eut un succès notable dans les années 30 et dont j'ai retrouvé une précieuse interview de 1972 sur France Inter au micro de Gisèle Paris.
Laure Diana, je sais que vous avez été une des premières, pour ne pas dire la première, à enregistrer Pierre Mac Orlan. J'aimerais que vous me parliez de cette entrevue avec Mac Orlan et Francis Carcon.
J'étais la première. Il n'avait jamais écrit de chansons. Il écrivait des livres. Et on le demande pour la radio d'enregistrer un de ses livres. Oh, je crois que c'était Belle Abbesse. On enregistre. Et puis, il fallait qu'une femme, une femme des bistrots, des légionnaires, vienne chanter une chanson. Une camarade qui était engagée pour Impossible. Alors, on me téléphone du studio Riera. me téléphone en me disant « Laure, est-ce que vous pouvez m'apprendre une chanson très vite ?» Si cette chanson me plaît et me convient, oui. Bon, ma femme vous la porte tout de suite. J'étais chez moi, sa femme vient. Par hasard, ma pianiste était là, je travaillais avec elle. Parce que moi, je ne pouvais pas déchiffrer. Je suis incapable de déchiffrer au piano. Ma pianiste le joue, oh, tout de suite. Et c'était « C'est ta belle abaisse que j'ai perdu ma graisse et quelques faiblesses dans mon raisonnement. » Un genre de chanson que je ne chantais jamais, mais qui m'a prise aux tripes immédiatement. Je l'ai apprise. Il m'a dit « Bon, je vous attends cet après-midi, nous enregistrons. » On enregistrait, mais avec tous les gars qui faisaient les légionnaires. C'était pas tellement facile. Et les interruptions, car les légionnaires interviewaient leur chanteuse. Si chanteuse il y avait, pensez, c'était un bastringue de dixième ordre. Alors j'ai chanté cette chose de Macorlan que je ne connaissais pas, qui était au fond de la salle de l'enregistrement, qu'on ne m'avait pas présenté. Et après l'enregistrement, il m'a dit « Bon, je vous écris... » quatre autres chansons, ça en fera cinq, et nous faisons une série de cinq chansons. Et il m'a écrit les chansons. Les chansons de Pierre Macorlan ont été présentées par Francis Carco et Macorlan dialoguant ensemble. Et puis on a enregistré les chansons après les dialogues. Et ces chansons étaient accompagnées par deux accordéons. Macorlan ne voulait absolument pas d'orchestre, ni de piano. Deux accordéons.
Bonjour Carco, tu viens à point. Car je voudrais te faire entendre six chansons de soldats, six chansons étroitement liées à un pittoresque et à un argot de chambrée qui n'existe plus.
Voici donc gravé dans la cire une partie importante de tes expériences sentimentales, puisque tu as beaucoup écrit sur la condition du soldat de métier, naturellement.
J'ai voulu peindre quelques images de soldats dépouillés de leurs conventions officielles. J'ai choisi pour cela un légionnaire, un matelot de l'État, un colonio, comme ils disent, et un...
Un joyeux, comme de bien entendu.
Pour commencer, Lord Diana va te présenter sur un disque les souvenirs mélancoliques d'un légionnaire du premier étranger, à l'époque des pantalons rouges.
C'est à belle abaisse que j'ai perdu ma graisse et quelques faiblesses dans mon raisonnement. Au coin de la rue verte, chez la Montmarlette, j'ai payé mes dettes avec le prix franc. C'est une gauche gironde, plus rouquine que blonde, qui connaît son monde et ceux de la Légion. Quand je conduis mon brel, l'arme à la bretelle, c'est elle qui m'appelle par mon petit nom. Je lui réponds, môme, sois plus économe. J'en connais mieux comme joli faridon. Des airs de jouvence, des chouettes romances. J'en ai plein la panse de mes deux bidons. De toutes les frangines, t'es la moins coquine. Et dans la débine, tu connais le condé. Quand le bled immense nous met dans la danse, c'est à toi que je pense, devant le BMC. Souvenir de la clique, sans métaphysique, tout cela s'explique. Lorsque le soldat sent l'odeur des crèches, du quartier qui sèche, dans les plis d'un chèche, retrouvé comme ça, c'est la fin des choses, la dernière pause, et la boucle est close d'un cercle parfait. C'est la fin de la danse, on change de romance, on paye, on recommence. Ah, c'est la monnaie!
Les mots secrets du disque que tu viens d'entendre sont ceux dont les soldats usaient encore en 14.
Certainement. Je sais qu'un brel, par exemple, est un mulet, que Bessif signifie de fort. Quant au BMC, nous nous comprenons.
Les trois disques 78 tours de chansons de soldats, interprétés par Lord Diana, sont accompagnés à deux accordéons par Marceau et André Astier. Ils ont été publiés chez Pathé en février 1950, à l'occasion de l'élection de Pierre Macorlan à l'Académie Goncourt, et sont devenus de vraies pièces de collection. Chaque face est introduite par un court entretien réalisé à Saint-Cyr-sur-Morin entre Pierre Macorlan et son ami Francis Carco. Dans ces six chansons, animées par un argot typique des casernes et des ports, l'écrivain a dessiné avec truculence et précision quelques types caractéristiques de soldats et des filles qu'il fréquentait. toutes ont été mises en musique par le célèbre accordéoniste Marceau, originaire de Liévin, dans le Pas-de-Calais, où il est né en 1902. Au soir de sa vie, en mai 1984, Marceau était l'invité de Jean-Louis Foulquier sur France Inter au cours d'une émission en hommage à Pierre Macorlan, enregistrée à la Maison de la Culture d'Aulnay-sous-Bois avec Monique Morelli.
Marceau, vous êtes venu aujourd'hui avec nous. Alors vous avez rencontré Macorlan dans quelles conditions?
Je me rappelle bien, c'était en 1934, quand je suis venu à Paris. Alors je suis allé avec Dinimon, le législateur, vous connaissez? Je suis allé avec Dinimon chez lui à Saint-Cyr-sur-Mer. Alors, on a parlé de choses et d'autres. Comme j'ai lu pas mal de ses bouquins, puis toutes les chansons qu'il a faites, il a vécu ces chansons-là. C'est-à-dire, il habitait à Zeebrugge, il a gagné un policier sur Zeebrugge. Et je connais bien Zeebrugge, j'ai ma soeur qui habite. Et alors, c'est exact. Après, il a été habité à Marseille pendant 3-4 mois pour bien piger, pour faire la chance, pour les chansons. Quoi.
Oui, l'ambiance
pour
de Marseille.
Pour faire ses livres d'abord. Et alors, on a fait la Belle de Mai, c'est ça?
Oui, la Belle de Mai.
Après, il a été habité en Bretagne, Fanny de Lannion.
Pour Brest.
Après, il a été habité en Allemagne, en Rhénanie. Après, il est allé à Londres, dans le quartier des docks, là-bas.
Alors, à chaque fois qu'il revenait de voyage,
chaque région, il y avait une chanson là-dessus.
Et il venait vous voir avec le texte?
Alors, non, j'allais là-bas, il me donnait le texte, et je faisais la musique sur le texte. Mais il y avait un inconvénient là-dedans, pour moi. C'était juste toujours 5 pieds. Cet abbé la baisse, j'ai perdu ma graisse, et ainsi de suite. 5 pieds, la fille de Londres, Rose des Bois, 5 pieds. C'est pas marrant de faire de la musique avec 5 pieds, qu'est-ce qu'on va faire avec ça hein?
Mais je me souviens d'une blague, Marceau, vous faisiez à Pierre. Quand vous preniez le centimètre, Marceau prenait le centimètre, il mesurait la poésie comme ça. Il disait à Pierre, ça va faire une valse. Ça fait 12 sur 6.
Une fois, j'ai fait une jolie valse, une très jolie valse. Oui. Tiens, je peux peut-être la jouer tout à l'heure. Je l'ai jouée au moins 100 fois. Il n'a jamais pu faire les paroles dessus. Il fallait lui laisser les mains libres pour les paroles.
Je voudrais écouter ta chanson des bataillonnaires. C'est facile. J'ai situé mon historiette vers 1906 dans les quartiers populaires de Marseille, le Fort Saint-Jean, Saint-Charles et la Belle de Mai.
Soir à la manufacture, je travaillais bien sagement. Lui à Saint-Charles sans coupure, se défendait je ne sais comment. C'était un gosse de la Martiale, c'était un petit môme bien fringué. Et si j'en parle, c'est qu'à Saint-Charles, près de la caserne, je l'ai rencontré. Ah, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la Belle de Mai. Quand je l'ai connu, j'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait chaque fois qu'il le voulait. Je me suis mise en brème, car si on aime, on ne sait plus ce qu'on fait.
Les villes où Pierre Macorlan a roulé sa bosse durant ses années de jeunesse sont autant d'expériences fondamentales qui ont nourri son imaginaire. De Marseille, où il a séjourné en 1907, à Rouen, Le Havre ou Brest, on retrouve l'ambiance particulière des ports qu'il a magnifiés dans nombre de ses romans, tels le fameux Quai des Brumes en 1927, ou des reportages comme Brest en 1926, Ville en 1929, ou Filles d'amour et Ports d'Europe en 1932.
Mais les matelots dans les ports, n'est-ce pas là un de tes sujets préférés?
C'est vrai, mais quelques mots dans la chanson intitulée « Fanny de Lannion » près de Brest exigent une traduction. Ainsi, le bidel, c'est le capitaine d'armes, la Cayenne, c'est le dépôt des équipages, et un sacco, un fusilier marin.
À l'aube sur le quai Guédon, devant le petit pont, chantait la chanson, le branle-bas de la croisière. Et dans la blanche baleinière, Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet caplé un peu de côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes fins ans. Le bidel capitaine d'armes et son cahier de puni, dans la Cayenne faisait du charme pour je ne sais quel sourire. Mais j'ai dans le cœur une souffrance quand le quartier maître Clairon
sonnez en haut de recouvrance, ô filles de la Ninon. La plus belle de la Ninon, Fanny Kercrozon, m'offrit un pompon de fantaisie. C'était elle, ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots devant le dépôt. Quand je songe à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir.
En 1962, Monique Morelli a consacré un premier disque 33 tours aux chansons de Pierre Macorlan, accompagné à l'accordéon par Lino Leonardi. Lorsqu'ils ont livré au public Fanny de la Ninon, sous-titrée « À recouvrance », Macorlan et Marceau n'imaginaient pas que leur œuvre deviendrait en quelques décennies un classique des chansons de marins, repris par toutes les chorales finistériennes. Mais entrer de son vivant dans le folklore, au point de voir son nom d'auteur disparaître, n'est-ce pas la plus belle reconnaissance populaire ? Voici à présent Bernard Ascal, directeur artistique chez EPM, notamment pour la vaste collection Poètes et chansons. Il a aussi conçu en 2013 un coffret de CD et DVD spécifiquement consacré aux œuvres de Pierre Macorlan, qu'il estime tout particulièrement.
Macorlan a toujours prêté une attention excessivement bienveillante au monde militaire. On peut s'interroger sur le fait que, au moment où lui-même a été mobilisé, il était dans une extrême misère. Il venait de passer des années de misère. Et quand il est mobilisé, pour la première fois depuis bien longtemps, il se retrouve avec des habits secs, il se retrouve avec des changes d'habits, il se retrouve avec le repas assuré, le gîte assuré. Et c'est probablement une période vécue heureuse, en quelque sorte.
Là, on parle de son service militaire. Là.
Pendant le service militaire. Hein, là, on ne parle pas de la période de guerre. Hein, on est bien avant, bien sûr. Mais je pense que cette période a coloré pour jamais sa vision de l'homme soldat. Et après, quand il écrit sur des soldats qui, en fin de compte, se trouvent en fin de carrière, on a le même rapport, en fait, entre les soldats et les filles qui les accompagnent. C'est-à-dire, quand ils parlent, elles ne sont jamais en début de carrière, elles sont tout le temps en fin. Ces soldats ont rempilé plusieurs fois, ils sont usés jusqu'à la corde, ils n'en peuvent plus. Mais en même temps, c'était la seule manière pour eux de survivre, c'était la seule manière d'avoir un semblant de chaleur humaine, d'affection féminine aussi. Donc tout est tout le temps mêlé. On est dans des gens qui ont réussi à survivre grâce à cette institution.
Maintenant, nous allons retrouver les épaulettes jonquilles de l'infanterie coloniale. Marie-Dominique est le titre d'une histoire sentimentale qui se situe entre la caserne de l'Oursine et Saïgon.
Nous sommes toujours en 1906.
Oui.
Ah, évidemment. De 1914, ce fut la fin de tout ce pittoresque militaire.
Écoute le disque.
J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu vas voir ce que c'est que l'Indochine, écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique.
Dans ces romans, en fait, de soldats, par exemple, il y a énormément de références aux chansons de légionnaires. Alors, il y en a une qui revient tout le temps, qui parle de Tataouine. Je sais pas, elle apparaît dans 5 ou 6 de ses romans. Parce que la chanson militaire, enfin la musique militaire, Macorlan, dans une de ses interviews vers la fin de sa vie, explique que pour lui, c'était la même chose que le rock pour les yéyés. En fait, au moment où il parle, c'est le début du rock, etc. Et il dit que lui, le rythme de sa jeunesse, pour lui, ça a été la musique militaire, parce que il est parti. D'abord, il a fait sa conscription, et puis après, évidemment, en 14, il a été mobilisé dès le 1er août, et alors qu'il était en Bretagne, et il a fait la guerre quand même jusqu'en septembre 1916. Donc forcément, comme tous ces hommes-là, ça a marqué sa vie entière. Par contre, la figure du soldat l'intéressait énormément, à la fois par son vécu propre et aussi parce qu'il avait un frère plus aîné que lui de 5 ans et qui était dans la Légion, qui a également fait la guerre 14, d'où son intérêt pour la figure du légionnaire. Et une partie des chansons qu'il va écrire vers la fin de sa vie ont un rythme militaire, notamment celle de Marceau. Et puis aussi, certaines d'entre elles ont pour sujet soit la Légion, soit la guerre 14.
Comme l'explique Evelyne Baron, l'univers militaire constitue la matrice des premières chansons de Pierre Macorlan. Pour chaque texte, le compositeur accordéoniste Marceau a su trouver un rythme et une couleur musicale spécifique, évoquant l'atmosphère des lieux et l'ambiance des scènes décrites par les paroles. Retrouvons-le en 1984 dans l'émission de Jean-Louis Foulquier à propos de la dernière des 6 chansons de soldats enregistrées par Lordiana.
Avant la guerre de 14, quand il y avait les pantalons rouges, il y avait des filles à soldats qui suivaient le régiment pour manger la gamelle, pour manger le rabiot, c'était mieux. C'est généralement des gitanes ou... Alors c'est Rose des Bois, ça. Et ça commence au petit jour, le matin. Et la musique que j'ai faite, ça s'adapte très bien aux paroles. Ça commence au petit jour. On dirait la Diane, tu sais. On dirait une sonnerie de trompette ou de clairon.
C'est un autre témoignage de ce temps que tu vas entendre, d'une image sonore qui retrace l'existence pitoyable des malheureuses filles qui suivaient les régiments comme des chiennes fidèles. Voici le disque de Rose des Bois, on la nommait ainsi.
J'avais peu d'appât, un drôle de nez plat, les yeux insoumis d'une Romanie, quand la Diane sonnait dans toutes les casernes, sous une poterne ventre creux j'espérais. Rose des Bois par-ci, Rose des Bois par-là, saute ma mignonne, t'auras du rata. Quand le clairon sonne, mon cœur m'abandonne, mais je n'ai personne à qui dire tout ça. Quand j'irai crever au fond d'un terrier, un peu sans façon, un clochard fripon portera la croix selon les usages. Dans cet équipage, j'irai du pied droit. Rose des Bois par-ci, Rose des Bois par-là, pour tout héritage, je laisse au grivois la peau de mes tatouages et mes badinages, afin qu'il rengage et qu'il prie pour moi.
En effet, c'est un souvenir pitoyable que celui de ces filles, parfois jeunes, qui mangeaient les restes de gamelles devant la porte des casernes. Mais la misère est souvent féconde. Elle peut enrichir les couleurs et les mots.
Et c'est la fin de mes souvenirs de soldats et aussi la fin de ma jeunesse. Aujourd'hui, nos expériences sont authentiques, mais démonétisées. Je n'ai voulu qu'apporter un témoignage dans l'esprit populaire du temps qui le provoqua. Marceau m'a donné le secours de sa musique pour faire revivre un peu ce passé souvent pénible des rues et des camps.
Ça va, monsieur Pierre.
Enregistrées fin 49, ces chansons de soldats de Pierre Macorlan, marquées par la nostalgie, évoquent un univers qui peut sembler lointain à l'auditeur d'aujourd'hui. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le souvenir de la Grande Guerre était encore très présent. La vie militaire et son folklore, ainsi que celle des colonies, faisaient partie des sujets de conversation, de littérature et donc de chansons. De sorte que les refrains que nous venons d'entendre par leur créatrice Lordiana ont souvent été repris par d'autres, tels Monique Morelli, et fréquemment diffusés sur les ondes de notre radio nationale durant les années 50. La semaine prochaine, nous évoquerons les lieux de mémoire de Pierre Macorlan, à savoir les villes qui ont marqué sa jeunesse. Elles ont inspiré une fameuse série d'émissions de radio et de nouvelles chansons dont certaines, comme La fille de Londres ou La chanson de Margaret, sont devenues des classiques repris par une foule d'interprètes. « Je remercie Dorothée Gol à la préparation, Marie Le Peintre à la technique, Massimo Bellini à la réalisation, Aude Vassan et Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.